Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse
exclusivement de la musique country
avec Charles Lemoine
et Thomas Révoy.
Salut à tous, c'est Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Popcorn et Banjo s'inscrit dans le créneau Vive le cinéma de Aligre FM 93.1. À ma gauche, Charles Lemoine, superviseur musical, journaliste et photographe. Salut Charles.
Salut Thomas.
Et moi-même, Thomas Révoy, réalisateur, journaliste et photographe. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes tous les deux cinéphiles et nous croyons autant dans le dématérialisé que dans le support physique. Aujourd'hui, petit focus sur une maison d'édition qui édite des titres un peu particuliers. Vous l'aurez compris ou vous l'aurez simplement lu sur le titre de l'épisode, il s'agit d'Extra Lucide Film. Nous parlerons de trois titres en particulier, Assa, Sweetie You Won't Believe It et Fire in the Sky. Popcorn et Banjo, la 9e, c'est sur Aligre FM 93.1 et c'est parti.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Extra Lucide Film, c'est une maison d'édition de Blu-ray qui est tenue par deux passionnés, Karine et Patrice, qui s'intéressent aux films complètement barrés, rares, choquants, amusants et cultes. Il y a de l'animation avec des titres comme The Spine of Night de 2021, de Galen King et Philippe Gellat, avec la voix de Lucy Lawless, qu'on aime évidemment énormément, puisque c'est Xenia la guerrière. Et donc, comme je te le disais, Xenia la guerrière, qui est tout de même un titre qui appartient entre autres à Sam Raimi, ce qui est assez étonnant. Et puis, il y a aussi Bubble Bath, un film hongrois réalisé par Gyorgy Kovaznai en 79. Donc là, ce sont mes origines qui parlent. Bien sûr, on peut aussi trouver le très bizarre film ultra-violent de Fatih Akin, Golden Glove, et le très rare Le Franc-Tireur, unique film de Jean-Max Cosse et Roger Taverne, et qui n'existait qu'en VHS jusqu'alors, et qui est un grand film de résistance assez culte et que j'ai hâte de découvrir. Mais bon, retour à notre émission. Pour parler de Extra Lucide Film, nous avons donc ciblé notre propos sur trois titres, dont le premier s'appelle Assa.
Aligre FM 93.1.
Assa, c'est un film de 1987, hein, qui est un film qui nous vient tout droit de l'URSS, film politique qui a été tourné quelques années avant la chute du mur, hein, puisque c'est 89 la chute du mur, donc on peut dire que le réalisateur Soloviov avait quand même le nez fin, c'est ça l'expression? Le nez creux?
Avoir le nez... Tu peux dire avoir un nez fin ou avoir le nez creux, là, pour le coup.
Ouais, en tout cas, il avait le nez creux, quoi, un petit peu en avance sur ce qui allait se passer. Donc, c'est un film qui est tourné pendant la perestroïka, hein, qui veut dire la reconstruction, et qui est un nom qui est donné aux grandes réformes économiques sociales menées par Gorbatchev, qui en gros vont s'étendre de 85 à 91, et avec trois grands axes prioritaires, hein, des transformations économiques, sociales et éthiques. En gros, on donne plus... Alors vraiment, c'est vraiment pas pour les spécialistes que je vais dire, mais en gros, plus d'autonomie aux entreprises, favoriser la propriété privée, et puis on se tourne vers une économie un peu plus libérale. Ce qui est intéressant, c'est qu'un peu plus tard, la continuité de ça, c'est un autre grand mouvement politique qui s'appelle la Glasnost, ce qui veut dire la transparence, et c'est un mouvement qui débute à peu près en 85 et qui donne le droit aux citoyens soviétiques de critiquer l'État et les organisations du parti. C'est en gros la fin de la censure officielle et l'autorisation aux radios étrangères et à la littérature jusqu'alors dissidente d'exister quoi en URSS. Et évidemment, ça c'est intéressant parce que Assa est un film qui est bourré de références, notamment à la musique américaine, avec des photos, des portraits de David Bowie, de Nick Cave. Et c'est un film qui va beaucoup jouer sur cette espèce d'ambivalence musique rock punk russe, hein, vraiment très forte dans son identité, et puis tout le jeu de miroir avec toute cette musique américaine, des Bowie, des Nick Cave qui sont vraiment présents, en tout cas visuellement, dans tout le film. C'est le manifeste d'une génération, hein, cette jeunesse russe qui veut s'émanciper, avec, qui est appuyée donc dans le film avec deux groupes cultes, Aquarium et Kino. Le film y raconte l'histoire de Bananan, qui est un chanteur dans un groupe de jeunes talents montants, et qui lui est amoureux d'une jeune infirmière qui s'appelle Alika. Simplement, cette jeune infirmière, elle est en relation avec un mafieux un peu plus âgé, hein, pour dire les choses franchement, qui s'appelle Krimov. Et elle s'entiche aussi de Bananan, et donc il y a un espèce de trio amoureux qui s'organise, et puis ça va mal se passer, et ça va déraper. Charles, je sais que tu as beaucoup aimé le film, je crois ne pas me tromper en disant que c'est ton préféré des trois qu'on a vus.
Clairement, oui. J'ai beaucoup aimé Assa, pour plein de raisons. Premièrement, je pense que c'est... des trois films, c'est celui qui peut-être aussi est le plus politisé. Il y a peut-être une autre résonance que les autres, en tout cas
une
autre importance intellectuelle, on va dire. Mais c'est aussi, je pense, à cause de la musique. Comme tu disais, en fait, c'est un mélange de tout ça à ça. C'est en même temps la musique de Kino, qui est un grand groupe des années 80 de l'URSS. En même temps, c'est un film qui est assez long, hein. Il fait 2h20, il est coupé en deux parties.
Ouais.
Donc il prend vraiment son temps aussi d'exploiter ses personnages. Moi, je dirais ce qui m'a le plus amusé dans ce film, en dehors, bien sûr, de la politique qu'il présente, et en tout cas de la fraîcheur qu'il présente, c'est aussi la forme qu'il a, qu'il propose, qui est assez étonnante. Où le réalisateur va vraiment s'amuser avec tout ce qu'il a, c'est-à-dire va y avoir des moments vraiment de concerts filmés, puis après on va passer à des espèces de rêveries où là va y avoir de la peinture sur de la pellicule et ça va partir un peu dans des choses un peu plus expérimentales. Il y a aussi des moments très drôles où ça passe dans presque dans une forme plus littéraire, donc où il va y avoir des espèces d'astérisques sur le coin de l'écran, et il va y avoir après les définitions des mots qui ont été utilisés par les acteurs. Il y a une histoire dans l'histoire aussi, parce que le mafieux russe lit un livre qui se passe en 1800.
Ouais, 1801-1802,
pendant un coup d'État ou pendant une espèce de révolution en tout cas. Et donc, en fait, on va vraiment voir ce qu'il est en train de lire. Et donc, il y a comme ça quelque chose d'assez foisonnant dans ce film que j'ai trouvé très agréable et en fait très rafraîchissant. On sent que le réalisateur a vraiment voulu donner corps à son récit et aussi donner plein d'outils pour le comprendre. C'est en même temps assez littéral, hein, parce qu'on parle de la jeunesse underground, on parle du rock... On parle de s'émanciper de l'État, donc on sent quand même une espèce de souffle, un peu de colère, quoi. Et en même temps, je trouve que c'est un peu la force des Russes, j'ai l'impression, de mettre un peu les deux pieds dans le plat, et en même temps, d'arriver à avoir quelque chose, au final, d'assez fin, et de pousser un peu la réflexion plus loin.
Ouais.
Que simplement de se dire, c'est une espèce de colère de la jeune. Enfin voilà, les gens sont pas contents. Là, on va vraiment essayer d'étirer la chose au maximum. On va aller plus loin que ça. On va dire, qu'est-ce que c'est le pouvoir ? À qui appartient le pouvoir ? Comment on peut, nous, en tant qu'individus, le récupérer ? Et grâce aux différents personnages, on va avoir l'occasion de comprendre la complexité de ce qu'était l'URSS à l'époque. Et de comprendre à quel point ces personnages-là sont bloqués dans le carcan, en tout cas, de cette Union soviétique de l'époque. C'est un peu ce que j'ai ressenti là-dessus. Mais toi, Thomas...
Moi, je rebondis tout de suite sur ce que tu dis, sur le film quasi-expérimental. Et c'est vrai que, effectivement, il dessine sur sa pellicule. Ça, c'est très drôle ce que tu disais. Il met des petites astérix quand les jeunes utilisent des mots d'argot difficilement compréhensibles, très ancrés dans cette culture... underground russe de Leningrad, il y a des petits astérix, et à la fin de la séquence, il y a des explications de ce que ça voulait dire. Et en fait, j'ai regardé, et figure-toi que le mot Assa, qui est donc le titre du film, c'est un mot d'argot qui vient justement de cette contre-culture russe, et ça veut dire le bordel. Okay. Genre bordel. Et le film, quand même, est un poil chaotique. Je pense que... on peut pas nier que ça part un peu dans tous les sens. Après, il y a une atmosphère qui tapisse tout le film et qui, d'une certaine manière, l'ordonne et qui est extraordinaire, cette atmosphère, surtout dans la première partie, encore plus puissante dans la première partie. Mais voilà, c'est un film qui est bourré d'idées, qui part un peu dans tous les sens, mais qui en creux dit quelque chose de très beau, c'est-à-dire la fin d'une génération et le début d'une autre génération. Et ça, c'est extrêmement bien expliqué dans un bonus qui est vraiment carré de chez carré par une spécialiste du cinéma de l'URSS qui s'appelle Eugénie Zvonkin. J'espère que je n'écorche pas trop son nom. Et alors, vraiment, bonus important, je trouve, à regarder après le film.
Petit point bonus, on parlera d'un autre bonus oui tout à l'heure. et effectivement, et vraiment, on essaie de regarder les bonus avec Thomas, et celui-là était vraiment très très bien. Il expliquait vraiment très bien le film, et en tout cas, il donnait aussi une autre vision que la nôtre, en tout cas, et vraiment très bien expliqué, et très, vraiment très très bien.
Ça, en fait, c'est ce que... Elle mettait en parole des choses que, en tout cas, moi, j'ai ressenties, mais que j'arrivais pas forcément à tout à fait analyser avec un regard d'historien, en fait, de spécialiste. Et notamment cette dualité vraiment entre la vieille Russie, représentée par ce mafieux Krimov, qui, soit dit en passant, est un homme extrêmement fit, je le dis pour ceux qui font du crossfit. Prenez exemple sur ce mec qui a 51 ans au moment où le film est tourné et qui bouge, mais comme un félin de c'est 4 ans. Quoi.
Une panthère.
Une panthère de 4 ans.
Le mec 51 balais, il fait tête sur la main, il fait poirier.
Il marche sur les mains, enfin bref, il se suspend à un moment, je ne sais pas si tu souviens, à un bras.
C'est lunaire.
D'ailleurs, type assez étonnant, puisque ça, c'est toi qui as dégoté ça, mais en fait, cet acteur va ensuite devenir, à vérifier l'information, mais il va devenir conseiller sur la campagne de Poutine.
Ouais, il va faire de la politique, et en fait, ça va devenir vraiment un gars du coup,
Un homme de l'ombre de Poutine, un
ouais,
peu.
Exactement.
Peut-être pas de l'ombre.
Non, mais il a travaillé dans des ministères, enfin, après, c'est... simple, j'ai vu ça sur Wikipédia, hein,
ouais.
Donc c'est assez simple à vérifier, mais vraiment, ouais, il a une... C'est marrant, en tout cas, qu'un mec fasse à ça, qui a un truc quand même assez révolutionnaire, tout ça, pour finir chez Poutine, quoi.
Ouais, c'est... voilà, personnage étonnant. En tout cas, film assez extraordinaire, avec une fin, franchement, une fin... moi, qui m'a vraiment scié, quoi, qui m'a vraiment beaucoup touché. Et là, je trouve que le film... j'ai trouvé le film bon, je trouve qu'il y a des longueurs. Il y a des moments où j'étais moins fan, un peu perdu. Même si visuellement, c'est très beau, très maîtrisé, assez poétique. Enfin, ça fonctionne très bien. Mais il y a des moments où j'étais un peu perdu, un peu voilà. Et en revanche, la dernière séquence, je trouve, élève le film à un très, 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 très haut niveau. C'est une séquence bouleversante. Avec un musicien, Victor Tsoï, qui est très connu, je crois.
Qui fait partie, justement, du groupe Kino, dont les morceaux perlent, en fait, au fur et à mesure du film. Mais Victor Tsoï, il est devenu connu aussi, peut-être, parce que, je sais pas si t'as vu le film Leto.
Non.
De Kirill Serebrennikov.
D'accord, ouais.
Où qui parle, en fait, de ce groupe-là, finalement. Mais oui, c'est un grand groupe de rock russe, enfin, en tout cas... de l'Union soviétique des années 80, et effectivement, il apparaît, il fait une espèce de caméo à la fin pour vraiment devenir une espèce, en fait...
Un symbole,
ouais, le porte-étendard de cette jeunesse.
Et visiblement, dans le bonus, justement, on expliquait qu'il a presque été un petit peu dépassé par l'importance et la puissance qu'a pris cette dernière scène. Cette dernière scène qui est trouvable, je le dis, dans le deuxième bonus dont tu voulais parler rapidement. Puisque nous avons la chance dans ce deuxième bonus d'avoir un...
Ah oui, non, mais alors, parce que moi je pensais à un autre film dont on va parler après, et je veux qu'on parle de ce bonus-là, moi. Mais dans...
Ah, d'accord. Dans Fire
the Sky, parce que vraiment, le bonus, il est... C'est... Ah oui. Bon, je vais peut-être me moquer un peu, mais on verra ça plus tard, j'en suis désolé d'avance. Mais effectivement, alors, super bonus dans Assa, donc il y a, effectivement, comme tu disais, Eugénie...
Zvonkin,
qui fait vraiment une superbe analyse, vraiment hyper intéressante. Et deuxième bonus, je crois qu'il n'y a que deux bonus, hein, dans
ouais,
un troisième.
Ouais, non.
Deuxième bonus, un karaoké.
En russe.
En russe.
Sous-titré en russe phonétique, de cette dernière scène ouais. Extraordinaire.
Si vous voulez la rechanter en chant révolutionnaire.
Voilà.
Exceptionnel, on s'est fait un petit plaisir avec Thomas à la fin, quoi.
Exactement. Juste avant de passer au deuxième film, Charles, tu vas nous présenter deux morceaux de country un peu particuliers. Je te laisse le micro.
Aligre FM 93.1.
Alors le premier morceau que je vais vous faire écouter, c'est The Immigrant de Merle Haggard, sorti en 78. Donc à ce moment-là, pour remettre un tout petit peu de contexte pour ce morceau, hein, les États-Unis traversent une période assez difficile. En 73, il y a eu un choc pétrolier qui va être suivi par un second choc pétrolier en 79. Hein. Donc là, on est vraiment dans un moment où les États-Unis vivent une vraie crise économique. Au même moment, en Californie en tout cas notamment, il y a une population immigrée, hein, souvent venue du Mexique et d'Amérique centrale, qui augmente. Et dans certains cercles politiques et populaires, il y a une idée qui se répand comme quoi les travailleurs prendraient un peu trop les emplois des Américains, de souche on va dire. Et donc il y a un grand débat à cette époque-là autour de la réforme migratoire. Et le président Jimmy Carter va proposer une régularisation massive des sans-papiers installés depuis des années. Et c'est une proposition qui va vraiment diviser profondément l'opinion publique. Et c'est dans ce contexte que Merle Haggard, qui est vraiment une figure emblématique de la country, hein, pas forcément conservatrice, mais en tout cas assez moralisatrice parfois, va écrire un morceau qui a un point de vue peut-être inattendu pour certains de ses fans, hein, puisque là, il va parler vraiment d'un immigré dans son texte. Et non pas pour le juger, non pas pour dire qu'il n'a rien à faire dans son pays, mais au contraire, pour le défendre, pour dire qu'il a sa place aussi aux États-Unis. Et donc en fait, ce texte va raconter l'histoire d'un homme qui est venu chercher une vie meilleure aux États-Unis, qui finit par être exploité et qui finalement va être tout simplement viré du pays. Et Haggard va vraiment prendre parti pour lui et va y dénoncer le traitement inhumain qu'il subit. Et il va bien sûr aussi, dans le texte, relever l'hypocrisie d'une nation qui s'est finalement aussi construite complètement par des vagues migratoires et qui aujourd'hui rejette complètement ceux qui font tenir les fondations. Alors je vous laisse tout de suite écouter The Immigrant de Merle Haggard.
American ranching consists of a mansion where illegal immigrants do much of the labor by hand. They sneak them through customs till time comes to bust them, then haul them back over the border to their own native land. With a ragged sombrero and not much dinero, they'll be back again when the Rio Grande is down low. Border patroller, don't stop a stroller, cause the Mexican immigrant is helping America grow. Viva la Mexico, go where they let you go, do what you can for the land. Take home dinero and buy new sombrero, and come back again. A gringo, you smart aleck lingo, when he stole his land from the Indian man way back when. Don't he remember the big money lender that put him a Lincoln parked where his Pinto had been? The almighty peso that gives them the say-so to dry up the river whenever there's crops to bring. Is this a good neighbor to take all his labor, then chase him back over the border till he's needed again? Viva la America!
Condonero and buy new sombrero and come back again when you can. Viva la Mexico, go where they let you go, do what you can for the land. Take Condonero and buy new sombrero.
Le deuxième morceau est un peu plus léger, j'ai envie de dire. Il s'appelle Cowboys Are Frequently Secretly Fond of Each Other, un titre écrit en 80 par Ned Sublette et qui va parler d'homosexualité à une époque où, on va dire, celle-ci n'était pas, en tout cas, était un sujet assez tabou aux États-Unis et surtout dans l'univers très codifié des cowboys. Hein. La chanson est restée assez longtemps dans l'ombre jusqu'à ce qu'un grand nom de la country ne la reprenne en 2006. Hein. Ce grand nom n'est autre que Willie Nelson, qui va chanter un texte ouvertement queer. Un texte plein d'humour, qui, ne me donne pas l'impression de caricaturer, mais qui va simplement un peu gratter, un peu taquiner l'ego masculin, l'ego du mal alpha cow-boy, qui va se moquer un peu de sa selle de cheval, de ses bottes, etc. Le morceau que je vais passer n'est pas la version de 2006, par ailleurs, mais la version de 2024, où Willie Nelson va la chanter avec un nom de la country plus moderne, qui s'appelle Orville Peck. Orville Peck, on ne sait pas grand-chose de lui, hein. C'est quelqu'un qui est masqué, vraiment chapeau, masque en cuir et des franges au niveau de la bouche. Et il a vraiment une espèce d'aura de mystère, mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il milite, en tout cas, pour la visibilité des LGBTQI+, dans ce milieu de la country qui, effectivement, n'est pas forcément toujours très ouverte à la chose, même en 2025.
There's many a strange impulse out on the plains of West Texas. There's many a young boy who feels things he can't comprehend. And a small town don't like it when somebody falls between the sexes. No, a small town don't like it when a cowboy has feelings for men. And I believe to my soul that inside every man is the feminine. And inside every lady there's a deep manly voice, loud and clear. And a cowboy may brag about things that he's done with his women, but the ones who brag loudest are the ones that are most likely queer. Cowboys are frequently, secretly fond of each other. What did you think all them saddles and boots was about? There's many a cowboy who don't understand the way that he feels for his brother. And inside every cowboy there's a lady that loved to slip out. Somebody who says what the others just whisper. And mostly that someone's the first one to get shot down dead. But when you talk to a cowboy, don't treat him like he was a sister. You can't fuck with a lady that's sleeping in each cowboy's head. Cowboys are frequently, secretly fond of each other.
What did you think all them saddles and boots was about? There's many a cowboy who don't understand the way that he feels for his brother. And inside every lady there's a cowboy who'd love to come out. And inside every cowboy there's a lady who'd love to slip out.
Aligre FM 93.1.
Et sans transition, nous allons passer au deuxième film qui s'appelle Sweetie, You Won't Believe It, réalisé par Yernar Nurgaliev, qui est sorti en 2020. Film kazakh, un peu foutraque, qui nous parle de Dastan, qui n'en peut plus des reproches de sa femme, qui est enceinte, et qui n'est pas loin d'accoucher, et qui décide de partir à la pêche parce que vraiment ça lui casse les couilles, littéralement. Alors il part avec ses potes, partir faire une petite partie de pêche, et sauf que ça va pas se passer
un petit break.
Comme prévu. Une comédie assez potache, assez décomplexée, comme je disais, assez foutraque, qui me rappelle, moi personnellement, des films comme Tucker and Dale versus le Mal, ou encore Shaun of the Dead, qui sont des films que j'aime par ailleurs. Et vraiment, je crois que ça nous a beaucoup fait rire. Et toi, Thomas, tu as ri, je pense, à gorge déployée.
Ouais, ben moi, j'ai trouvé ça hyper frais. Et c'est marrant parce que, évidemment, ça renvoie à Tucker and Dale Fight le Mal, que j'aimais beaucoup. J'aimais moins la toute fin, mais sinon, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Et Sweetie, You Won't Believe It, c'est totalement décomplexé, c'est drôle, c'est riche dans à la fois l'humour et le gore. Je trouve qu'il y a toujours un petit moment où ça va toujours un cran plus loin que ce qu'on attend. Tu sais que par exemple, à un moment, il y a ce mec qui a des tournevis et tout dans le corps, dans la bagnole. Et puis, ça va toujours le petit cran plus loin. Non seulement il s'est fait poignarder, y compris avec le levier de vitesse de la voiture, mais après avoir débité trois conneries, il y a sa tête qui tombe, on réalise qu'il a été décapité. Et ça, c'est vraiment, je trouve, l'humour et l'essence même de ce film kazakh. C'est-à-dire de toujours faire un petit pas en plus. Et je trouve ça hyper généreux. Très très bien filmé, c'est très classique visuellement. Je veux dire, à ça, il y avait quelque chose un peu plus de l'ordre de la poésie. Il y avait de la caméra portée très belle, mélangée à des mouvements de caméra, etc.
Oui, là, c'est dur de comparer les deux, voilà. Là, quand même.
mais c'est très beau visuellement, hein. Sweetie, You Won't Believe It, moi franchement, je trouve ça hyper carré. Hein. Mais c'est vraiment du travelling, du plan large, du plan fixe. Mais tous les cadres sont délimités. Voilà. Très très bon jeu d'acteur. Et ce que tu disais par rapport à Shaun of the Dead, évidemment, j'y avais pas pensé, mais évidemment, dans l'humour, il y a du Edgar Wright. Mais moi, je trouve aussi qu'il y a un tout petit peu, je sais qu'on y revient beaucoup en ce moment, je sais pas pourquoi, mais il y a un petit peu d'Evil Dead, il y a un peu de Sam Raimi, pas du tout dans le côté démoniaque, caméra complètement barrée et tout, mais dans le côté un peu cartoonesque, humour un peu décalé, et notamment avec cette scène... de cet acteur, il y a un des acteurs kazakhs dont le nom m'échappe. Qui
tu
est,
peux essayer de le retrouver pendant
oui,
que tu parles.
Si je pense que tu sais à qui je pense.
Bah, bien sûr. Nous avons découvert ouais. Un génie de la comédie. Là.
Mais vraiment, et ouais. Je pense souvent, il y a cette scène où il est enfermé avec le tueur en série et il y a un espèce de cache-cache qui s'organise dans le cadre. Et moi, vraiment, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la folie de Sam Raimi, c'est, et de son acteur principal, mais tous les noms m'échappent, c'est terrible.
L'acteur auquel on pense, il s'appelle Yerlan Primbetov.
Ok.
Primbetov, je sais pas comment on dit Primbetov.
Et ben il a quelque chose de Bruce Campbell. Alors c'est l'inverse physiquement. Hein. Bruce Campbell, il est grand, il a l'air en tout cas grand
et
fin et carré, et rectangulaire. Et alors lui, cet acteur, il est plutôt petit, trapu et chauve.
C'est une petite boule.
tu peux pas dire ça.
C'est une petite boule.
Mais extraordinaire. Enfin très bien incarné. Et donc j'ai adoré ce film quoi. Film intelligent qui va là où on s'y attend pas et très généreux. Je sais pas toi si t'as des choses à ajouter. En tout cas juste avant j'aimerais dire que ce cinéaste n'en est pas à son premier coup puisqu'en fait il a tourné beaucoup de longs métrages. Je ne le connaissais pas. Il y a beaucoup de longs métrages où vraiment sur IMDb il y a marqué que ce serait bien qu'on puisse mettre les résumés quoi en gros. Donc je pense qu'il y a beaucoup de films qu'on ne connaît pas. Mais typiquement, c'est un profil vraiment ciné-bazar, quoi. C'est vraiment un type que j'aurais aimé ou que j'aimerais rencontrer et interviewer. Parce que j'ai beaucoup aimé son film. J'ai beaucoup aimé son film, qui est un film de personnage, hein, clairement.
Ce qui est vraiment chouette, c'est, comme tu disais, ce que j'aime bien chez Sam Raimi, et ce que j'aime bien ici aussi, c'est le côté un peu slapstick qu'il y a au fur et à mesure du long métrage. C'est-à-dire, donc le slapstick, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est vraiment littéralement slap, on va dire une gifle ou frapper, et stick, bâton, hein, donc c'est frapper avec un bâton. Et c'est vraiment les comédies qu'on peut voir dans les Looney Tunes, dans les films de Chaplin, où il se frappe avec une matraque et le mec il se fait assommer. Truc comme ça, ou alors la planche de bois qui tourne et le mec se la prend. Et en fait, on retrouve ça, mais à un niveau un peu plus... un peu plus costaud, quoi. Il y a des séquences vraiment absurdes. Il y a, comme tu disais, tous les massacres avec le tueur qui sont vraiment, vraiment assez jouissives et assez drôles, où ça va toujours plus loin.
C'est très drôle aussi parce que la bande de potes qui part pêcher se retrouve toujours devant les massacres, même s'ils le veulent pas. On pense que c'est eux. Enfin, il y a des quiproquos. En fait, il y a plein de niveaux d'humour. Pardon.
Ouais, non. Et puis même, je trouve que, comme tu disais, chaque personnage est très bien défini. Dans les trois, il y a quatre mafieux, il y en a un qui fait toujours des citations, il y en a un autre qui est un espèce de zinzin de la gâchette, il y en a un autre, bon, il se fait je crois qu'il se fait assez vite bazarder, mais il y en a un qui est très drôle, qui est une espèce de grand d'énorme géant là, une espèce de Golgoth, qui dès qu'il voit du sang il s'évanouit
et puis il fait que courir. Il est légèrement en surpoids, et donc il ne fait que courir derrière ses potes, et à chaque fois il arrive hyper essoufflé et il s'effondre, globalement.
Ouais,
et
puis surtout, en fait, à chaque fois ses potes vont de l'autre côté, donc il doit aller de l'autre côté aussi. Et à chaque fois sauf que quand il va de l'autre côté, bah, quelqu'un se fait tuer, donc il s'évanouit. Donc vraiment, il sert absolument à rien pendant tout le truc, c'est assez drôle. Et vraiment, t'as plein de petites choses à picorer tout au long du film, effectivement vraiment une galerie, un peu de personnages qui ont chacun presque leur propre type d'humour, avec des gens qui sont plus grinçants, des gens qui sont plus dans la physicalité, comme l'acteur qu'on disait,
le petit trapu. On va l'appeler le Bruce Campbell, petit trapu kazakh.
Ouais, exactement, qui lui, effectivement, mais parce que la scène dont tu parlais, où il est avec le tueur et il y a tout un truc de cachette, la scène elle dure, je sais pas, elle doit durer 10 minutes. Ce qui est assez long, hein. Et il y a un moment où, en regardant le film, je me demandais, mais est-ce que ça va pas être un peu long là ? Ça va commencer à être un peu too much. Et en fait, le réalisateur arrive à tirer ses séquences comme ça, quand il en a envie en tout cas. Des séquences vraiment très coupées, très cut, très carrées. Et puis voilà, d'un coup, on a une séquence de comédie qui s'étire. On sait même plus quand ça va se terminer. Il y a comme ça une espèce d'équilibre. Vraiment de tempo comique que je retrouve en tout cas, peut-être même que je ne retrouve pas dans beaucoup de comédies aujourd'hui.
En tout cas,
moi, dans ce qui me fait rire, peut-être aussi.
Il n'y a pas de baisse de régime, quoi. Il n'y a pas un moment où ça s'essouffle et tu te dis, oh là, je m'emmerde un peu là.
Puis le film est assez court, il fait 1h20, je crois.
Ouais.
Donc vraiment, c'est vraiment une petite pépite là qu'on a maté avec Thomas, je trouve. Moi personnellement, ça fait partie des très bonnes comédies que j'ai vues cette année, en tout cas des comédies qui sont sorties pas forcément au cinéma, mais
fois en support physique.
Exactement.
Et en dématérialisé.
Exactement.
C'est l'introduction de notre podcast, Charles.
C'est vrai. mais je la fais jamais l'introduction, donc écoute, peut-être que quand je la ferai un jour, je ferai cette introduction.
Non, et tu m'as dit un truc pendant qu'on regardait le film qui est très juste. Tu m'as dit, alors là, parce que tout d'un coup, ça part dans... En fait, il y a plein d'embranchements dans cette comédie. Ça part dans plein de différents types de comédies, ce que tu expliquais très bien. Et il y a ce moment où tu me disais, mais ouais, en fait, le réalisateur, il a voulu vraiment tout mettre dedans. Tu sais, c'est quand tout d'un coup, il y a un des comédiens qui se retrouve marié de force et tout ça. Et en fait, c'est vrai, il y a vraiment de tout, mais bizarrement, ça fonctionne. Et d'ailleurs, je pense qu'il se moque un peu de lui-même avec le concept de Deus Ex Machina. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup d'enchaînements de choses où évidemment tu te dis c'est quand même très peu probable, d'où le titre du film, Sweetie, You Won't Believe It, qui veut dire ma chérie, tu ne me croiras jamais. Et en fait, parce qu'en fait, c'est ce héros dans le film, sa femme va accoucher quand il part à la pêche, elle est sur le point d'accoucher, il lui dit non, tu vas pas accoucher aujourd'hui, etc. Évidemment, il apprend par téléphone qu'elle va accoucher, sauf qu'il est incapable pour lui de la retrouver, parce qu'il y a cet enchaînement de situations. Donc on comprend très rapidement dans le film que le titre Sweetie, You Won't Believe It, ça va être son explication à sa copine pour justifier sa non-présence pendant l'accouchement de sa femme. Et donc, il y a ces enchaînements de scènes comiques toutes plus barrées les unes que les autres. Et je me souviens donc que tu me fais cette réflexion en me disant « Ouais, le réa, il y met vraiment de tout. » Et c'est vrai qu'il y met de tout, mais c'est très surprenant parce que nous, on y croit et ça marche. Et je pense qu'il se moque de ça parce qu'à un moment, ce personnage, ce Bruce Campbell-Kazak qui se retrouve noyé dans une espèce de marécage sable mouvant, et puis il lui reste juste sa main tendue, qui d'ailleurs accessoirement est le poster de Evil Dead, hein, la main qui sort du sol, et là il y a une corde qui lui tombe dans la main, qui en fait est les rênes d'un cheval qu'on a vu plus tôt dans le film, et qui va le sortir de terre. Et évidemment, en tout cas je l'ai vécu comme un clin d'œil intellectuel de Deus Ex Machina, allez on va jusqu'au bout du truc, où juste avant de sombrer dans ce marécage, en plus, il apostrophe Dieu ou il dit quelque chose du style « Sauve-moi et je te promets que j'aiderai mes amis, etc. » Et puis il coule et là, hop, il y a une corde. Et je trouve ça très intelligent, très fin et avec un regard sur son propre travail qui est léger et sans aucune prétention. Le troisième film dont on veut parler aujourd'hui, il s'agit de Fire in the Sky, qui est un film de 93 de Robert Lieberman, que je ne connaissais pas, mais que toi tu connaissais, puisqu'il a fait... un film, le troisième d'un film. Agent Secret 3, un truc
comme ça. Non. Oui, pardon, d'un coup j'ai eu un bug.
Je te prends complètement de court.
Il a fait Les Petits Champions 3, The Mighty Ducks 3.
Et alors
Avec Emilio Estevez.
Okay,
dans le rôle d'un coach un peu tocard qui va en fait prendre sous son aile des gamins qui font du hockey et essayer de les emmener en haut de la ligue, quoi.
Film que tu aimes beaucoup.
Bah, que j'aime beaucoup, je sais pas, mais je me suis refait les Mighty Ducks il y a pas si longtemps que ça.
Ah ouais?
Et c'est des films assez mignons, quoi.
Tu as une tendresse, donc, pour...
Une petite tendresse, c'est des trucs de mon enfance.
Et ben, il passe donc... alors, il faudrait que je regarde les dates, je pense que c'est fait plutôt après, le film dont tu parles. Mais en tout cas, Fire in the Sky est un film de 93 qui n'est pas du tout un film comique. Et d'ailleurs, Robert Lieberman, je rebondis là-dessus, mais a fait beaucoup de films de Noël, beaucoup de films pour enfants. J'ai l'impression qu'il a beaucoup bossé avec Disney. Et je sais pas pourquoi, soudainement, en 93, il y a ce film qui existe. Alors, c'est adapté du livre de Travis Walton, qui est le principal intéressé, hein, puisque c'est lui, en fait, hein, qui aurait été enlevé par des aliens, ou en tout cas par un ovni. C'est donc un film qui s'organise autour de ce fait divers, hein, de cette abduction qui serait survenue... et de cette disparition qui, en gros, serait survenue entre le 5 et le 10 novembre 1975. Hein. C'est-à-dire que Travis Walton disparaît entre le 5 et le 10 novembre 1975. C'est un bûcheron...
Il disparaît quand, pardon ?
Entre le 5 et le 10 novembre 1975. Est-ce que c'est OK pour toi au niveau de l'info ? OK, merci. Et donc, il va réapparaître, hein, donc le 10 novembre 1975, il va réapparaître désorienté, déshydraté, et en prétendant avoir été enlevé par les occupants d'un ovni, c'est-à-dire objet volant non identifié. Là où l'histoire prend une tournure très particulière, c'est que tous les témoins, y compris Travis, de ce qui s'est passé, hein, de sa disparition, etc., vont être passés au détecteur de mensonges, et ils vont tous passer, en fait. Ils vont tous être validés dans le fait qu'ils ne disent pas de dânerie. Si j'ose dire. Je précise cependant, et je dois dire que c'est Wikipédia qui m'aide dans cette précision, qu'un détecteur de mensonges n'indique que la sincérité de celui qui y est soumis. Donc s'il est convaincu de ses dires, ça ne prouve en rien la véracité des propos. Donc,
tu veux dire que les ovnis n'existent pas, Thomas ?
Je ne sais pas, ça, je ne me lancerai pas dans ce débat-là, mais ce que je dis, c'est qu'en tout cas, ceux qui passent au détecteur de mensonges croient dans ce qu'ils disent. Maintenant, est-ce que ce qu'ils disent est vrai ? C'est une autre question.
Mais je ne sais pas si tu te rappelles dans le film Black Bag qu'on avait vu.
Ouais.
Tu te rappelles ou pas ?
Donc, je me rappelle en tout cas de la scène...
T'as Fassbender qui demande à La meuf, si, si elle sert l'anus pour savoir, parce que c'est une façon de dire la vérité ou pas.
D'accord.
Enfin, mentir. Et tu resserres le sphincter, et comme ça, tu dis forcément la vérité.
Et tu contrôles, genre, ton battement cardiaque.
Exactement, ouais.
Et bah, peut-être que Travis Walton et ses amis ont beaucoup serré leur sphincter.
Ça se trouve, c'était...
sphincter.
Bah ouais. Carrément.
Mais en tout cas, c'est le cas d'enlèvement par OVNI le plus célèbre jamais enregistré. Et donc, en fait, j'ai pas vraiment à résumer le film. Hein. L'intrigue, c'est vraiment ça. C'est-à-dire Travis Walton qui disparaît, ses potes qui sont... et toute la ville qui est complètement chamboulée. Et puis, soudainement, il réapparaît. Et on suit tout ce qui s'est passé. Charles, à toi la parole pour nous dire ce que tu en as pensé.
Oui, ce que tu ne dis pas aussi, c'est qu'effectivement... ils sont tous chamboulés, mais en plus que la ville soit chamboulée, les cinq copains sont aussi accusés, en fait, de meurtre. Et il y a tout un truc de tension aussi autour de lui, parce que quand même, le film fait 1h40, et il y a peut-être, en fait, 1h10. Ça, c'est pas de la science-fiction, c'est du thriller, quoi, quasiment. Je sais pas comment redire, c'est peut-être pas du thriller, mais...
Non, mais oui.
C'est un mélange un peu bâtard, en fait, entre une enquête, entre un... Detective movie, un thriller et un peu de science-fiction à la fin.
Et une chronique rurale, j'ai envie de dire. Parce qu'en termes d'atmosphère, quand même, nous, on a beaucoup roulé aux États-Unis. Et alors ça, c'est extrêmement bien retransmis visuellement. On est vraiment là-bas, quoi.
Ouais, et puis le chef-opérateur, c'est Bill Pope.
Exactement.
Qui est un très bon chef-opérateur, qui a fait peut-être quelques bouses ces dernières années, parce qu'il a fait des Marvel, etc. Mais qui, en tout cas, là, pour ce film, vraiment... a fait un travail, je trouve, magnifique.
Ouais, c'est sublime. C'est le chef-op de Matrix, hein, quand même.
Ah, c'est ça, ouais.
Et je précise qu'il a tourné Fire in the Sky en Super 35, comme Matrix, qu'il tournera aussi en Super 35 en 99. Donc, il essaye visuellement quelque chose en 93 sur Fire in the Sky, qu'il appliquera ensuite aussi avec Maestria dans Matrix, qui est quand même un monument de cinéma.
Ouais, bah là, dans tous les sens du terme, ce qui n'est vraiment pas le cas de Fire in the Sky, pour le coup, qui est le film... que j'ai quand même le moins aimé, que je trouve quand même pas loin d'être chiant, pour être totalement honnête, même si effectivement il y a le côté rural qu'on aime bien avec Thomas, il y a le chef opérateur, comme je disais, qui a fait un très bon boulot, vraiment, vraiment c'est très très beau, ça joue bien, etc.
Il y a un casting fou.
Ouais, il y a Robert Patrick qui
Henri Thomas.
Dedans, ouais, bon, Henri Thomas, c'est pas non plus le plus gros des acteurs.
Non, mais justement,
c'est le mec d'IT, mais bon.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un casting fou avec Robert Patrick, qui est donc le Terminator.
Deux.
Qui est extraordinaire quand même dans T2.
Mais qui est un super acteur.
Henri Thomas, le garçon dans E.T. Et Peter Berg, énorme cinéaste et qui a été acteur aussi. Et je trouve que c'est un grand casting de stars qui n'ont pas réussi. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Aucune n'a explosé. Alors Robert Patrick, il a une vraie carrière, mais oui, il a une carrière de... Il joue dans Total Zéro Tolérance de Joseph, que j'adore, hein, Mary. Enfin, mais je veux dire, c'est de la série B, un peu de fond de catalogue.
Ouais, mais
quoi.
Après, il a pu jouer des petits rôles dans Les Sopranos. Il a aussi fait... Il a remplacé David Duchovny dans X-Files. Pour moi, c'est pas un mec qui n'a pas réussi. C'est un mec qui honnêtement, c'est un énorme acteur de deux secondes,
voire troisième
rôle.
C'est ça que je dis.
Je dirais pas, parce que Henri Thomas, par exemple, j'ai pas envie de médire sur les carrières des gens. Hein. Je sais qu'il a joué dans Gang of New York. Après, j'avoue, je savais pas dans quoi il a joué. Mais après, c'est peut-être des acteurs.
Il a fait la suite d'E.T.
Quoi ?
Et ouais, mon gars, je te fais découvrir un truc. Extraordinaire publicité.
Ah oui, ça y est, d'accord.
Tout d'un coup, il se retrouve.
Ouais, bah c'est comme le mec de Home Alone qui a fait aussi une pub.
Ah, je savais pas ça.
Ouais, qui a refait un truc. Mais bref, en tout cas, je sais pas s'ils ont des gros.
Non, mais c'est pas pour médire. C'est pas pour médire.
Et Peter Berg, c'est quand même un gros réal.
Énorme réal.
Qui a fait quand même des films à très gros budget aussi, qui a fait des super films, tout court, qui ont plutôt bien marché au demeurant. Donc,
ce que je voulais dire, c'est le côté.
Non, t'as été très agressif
non,
avec eux.
Non, ben justement, au contraire...
Alors que c'est moi qui n'aime pas le film à la base.
Il y a une vraie tendresse. Je voulais dire, énorme casting de stars qui n'ont pas réussi en tant que stars. C'est-à-dire qu'on aligne trois noms qui sont en fait des gens hyper connus, mais pas forcément pour
du
leur...
public.
Oui, en oui, fait, mais... pas forcément pour leur carrière, quoi. C'est ça qui est étonnant, quoi. Mais moi, j'ai adoré le casting, hein, vraiment.
Mais en tout cas, voilà, film... en fait, honnêtement, assez... Assez banal, mais je te laisse un peu toi parler, parce que je crois que tu as plus aimé le film, et puis après on parlera de la séquence qui, je dois bien avouer, là il n'y a pas à dire, est une très grande séquence de cinéma.
Voilà.
Je te laisse un peu
Oui, alors, bah non, mais écoute, moi j'ai aimé le film, je reconnais qu'il y a des longueurs, j'ai aimé notamment pour le casting, j'ai aimé pour la mise en scène.
Un casting de gens qui n'ont pas réussi.
Non, un casting de stars qui n'ont pas réussi. Bref.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
J'ai aimé aussi, j'ai aimé pour le rythme du film, la manière dont, en fin de compte, on est accroché par certaines séquences assez brutales, notamment le retour de Travis Walton. Moi, j'étais assez choqué, c'est-à-dire le coup de téléphone où il appelle son pote, et puis on entend sa voix complètement cassée, il lui demande de l'aide, et on le retrouve dans une station-service. Et là, Travis, il est à poil, recroquevillé sur lui-même. En fait, tout d'un coup, et je trouve que c'est aussi la marque des grands réals, tout d'un coup, en termes de tension, le film bascule et prend vraiment du calibre. Et puis, en fait, c'est difficile de décorréler toutes ces longueurs de la séquence qui nous a marqué, moi qui m'a franchement traumatisé. Enfin, vraiment, c'est une très 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 grande séquence de cinéma, extrêmement bien mise en scène et extrêmement les effets spéciaux sont extraordinaires, qui viennent d'un type qui est formé à l'école de Stan Winston, hein, donc chez un peu un des patrons des FX. Et ben là, voilà, en fait, on va vivre la projection de ce qu'aurait vécu Travis Walton.
Ce qu'il a vécu.
C'est-à-dire son abduction.
Ne minimise pas les acteurs ni le personnage.
Tu as raison. C'est-à-dire son abduction par des aliens et ce qui se serait passé dans cet ovni. Et là, vraiment, je me rappelle, c'est même toi qui au début de la scène, après 2-3 minutes, c'est une scène quand même qui dure bien 20-25 minutes. Peut-être même une petite demi-heure. Hein, ouais. tu m'as vraiment dit ce que je pensais tout bas. Hein. Tu as dit tout haut ce que je pensais tout bas. C'est-à-dire que, waouh, mais en fait, c'est extrêmement bien fait. Et c'est vrai tu comprends que tu es en train de vivre un truc de l'ordre du très grand cinéma. Et c'est assez rare de vivre des scènes comme ça. Est-ce que tu veux en dire deux mots?
Je sais pas s'il faut trop en parler ou pas, mais effectivement... comme je disais, le film, vraiment, je l'ai pas beaucoup aimé. Enfin, en tout cas, assez tièdement. Mais cette séquence est certainement une des plus grandes séquences, effectivement, d'OVNI, de abduction, d'enlèvement d'un pauvre type, quoi. Et quand tu vois...
Là, il y a du jugement, quand même. Hein.
Ouais, ouais, clairement. Mais je prends...
Attention.
Je prends ton exemple, hein. J'ai compris que je pouvais arriver là-dedans. Donc... Non, mais il y a un truc vraiment hyper fort, la mise en scène, elle est dingo, il y a un truc très Cronenberg d'un coup qui s'installe, et il y a vraiment des tissus, il y a de la peau, il y a une espèce de truc, il est en espèce de gravité un peu, donc il flotte.
Ça, c'est hyper bien fait.
Donc en fait, au début, il est dans un cocon, puis il sort du cocon, et en fait, il est dans une espèce de grande tour, je sais pas quoi.
Et l'échelle de la pièce est colossale.
Ouais, c'est immense, ouais. Et donc, il y a vraiment un truc, une espèce de grandeur d'un coup, parce que c'est vrai que c'est de taper une heure de bûcherons qui taillent des arbres, et d'un coup, tu rentres dans un truc, dans une espèce de monolithe presque à la Alien, et tu comprends pas très bien, et puis après, on voit les aliens, et puis il y a une scène de table d'opération. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez intense, et ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est le montage qu'il y a, où d'un coup, il y a une espèce de transition, où le mec, il flippe un peu, il se met sous une table, il y a du miel qui tombe sur lui, ou je sais pas quoi.
Sirop d'érable.
Du sirop d'érable. Merci pour la précision.
Je crois. Mais c'est pas tout à fait le même goût. Non, c'est vrai, c'est vrai. Se projeter avec Travis
Walton. Et ni la même siruposité, j'ai envie de dire. et du coup, ça tombe sur lui, et là, il bug, et là, il se rappelle de la bave, et il y a vraiment un...
Ça lui fait un déjà-vu un peu, quoi, ou Madeleine de Proust.
Un déjà-vu.
Ouais, voilà.
Et il y a vraiment une espèce de... D'un coup, effectivement, tu comprends mieux la lenteur de ce film-là, et de pourquoi le réalisateur a voulu faire ça comme ça, mais... T'as l'impression que c'est vraiment un écrin vraiment immense pour une séquence qui est longue, mais qui est pas non plus, qui fait pas tout le film. Du coup, encore une fois, la séquence vraiment, elle est vraiment à voir. Le reste du film est vraiment plus qu'oubliable, je trouve.
Mais je sais pas si tu peux la voir sans voir le reste du film. Je sais pas si elle résonne de la même manière.
Je pense que 20 minutes aurait suffi, quoi. Un bon court-métrage.
Non, t'es trop dur. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, à noter quand même quelque chose d'intéressant, c'est que cette séquence, elle vient, paraît-il...
De Scanner 2
paraît-il... Non, alors ça, on va en dire deux mots aussi. Cette séquence, elle vient, paraît-il, des rêves du réalisateur Robert Lieberman, qui aurait trouvé dans le livre de Travis Walton que la scène d'abduction était trop proche de ce que les autres personnes qui auraient été kidnappées par des aliens ou des ovnis auraient décrit, et en fait, assez plat et assez chiant. Et pendant plusieurs mois, il a eu des rêves, ce réalisateur, qui ont construit cette séquence. Et alors, autant dire que je ne sais pas qui est le plus fou entre résultat, le réalisateur ou Travis Walton, mais la scène est quand même extrêmement dure et... Bah, c'est une grande scène de cinéma. D'ailleurs, les vrais Travis Walton et Dana Walton font un caméo dans le film.
Dans l'église.
Voilà, au début en tout cas, ou quand ils parlent.
Non, c'est un milieu du film. Okay.
Mais quand les habitants parlent de ce qu'ils doivent faire.
Exactement, enfin, Donc, et j'aimerais quand même terminer avec... Donc on a parlé vraiment bien des bonus de Assa. Et j'aimerais parler quand même du bonus qu'il y a dans le Blu-ray de ce film.
Un des bonus.
Des bonus qui parle en fait justement de la séquence de l'enlèvement, qui est présentée par David Scherer,
ouais.
Qui a un grand nom des effets spéciaux. Et qui
pratique,
exactement. Et qui, ça dure 8 minutes, hein, c'est très court. Et vous allez voir, ce qui est super intéressant, c'est qu'à aucun moment il parle de la séquence. Il ne parle que de Scanner 2. Donc c'est vraiment super.
Mais il donne assez envie de le voir, d'ailleurs.
Mais il donne hyper envie de le voir. Mais du coup, voilà, c'est... Je sais pas si c'était fait exprès, mais en tout cas, voilà, super bonus de Scanner 2 dans...
C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, pour la... Ouais. C'est le même FX artiste qui a fait Scanner 2 et qui a fait Fire in the Sky. Donc voilà, trois films qui sont trouvables aux éditions Extra Lucid Film. Trois films assez importants pour trois raisons différentes. Trois films qu'on a quand même globalement vraiment beaucoup aimés.
Oui, je me moque un peu, mais c'est vraiment gentil. Hein. Vraiment, je pense que ça reste à voir. En tout cas, quand on est un peu cinéphile, Fire in the Sky, par exemple, est vraiment assez intéressant. Et par contre, Assa, c'est un must, quoi. Vraiment, je le mets dans les grands films des années 80.
Et à noter aussi que Extra Lucid Film prépare la sortie en 4K de Monster Squad, le deuxième film de Fred Decker, sorti en 87.
J'adore.
Donc voilà, moi aussi j'aime vraiment bien. Alors j'avoue que je l'ai vu dans le DVD précédent, qui est pas dingue de mémoire, et j'étais un peu, j'avais très envie de le revoir. Le concept est fou. C'est vraiment des jeunes qui se battent contre tous les héros de la Universal, hein, Dracula, la momie. Je crois qu'il y a la créature du lagon noir aussi. Hein. Et voilà, j'ai hâte de le redécouvrir en 4K dans une édition enfin digne de ce nom. Fred Decker, drôle de trajectoire, hein, il a fait trois films. Il a fait un excellent premier film qui s'appelle Extra Sensu, je crois, le titre français, qui est vraiment bien. Il a fait son deuxième long de Monster Quad, qui est vraiment, vraiment cool. Et puis après, il a fait, et ça s'est arrêté pour lui, Robocop 3.
Ah ouais, ok.
Voilà. Mais bon, c'est le grand pote de Shane Black. Il co-écrit des Predators avec lui, etc. Donc voilà.
Est-ce que c'est encore une star qui n'est pas une star et qui a raté sa carrière, pas pour toi, Thomas? Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, ça pourrait rentrer, dans ce que j'appelle une star qui n'est pas une star qui a raté sa carrière. Mais bon, c'est quand même un assez grand scénariste, hein, Fred Decker.
Enfin, qui a raté sa carrière de star.
Oui, ah ben,
bien sûr.
Bien sûr. Voilà. Et Extra Sensu, Night of the Creeps en anglais est aussi vraiment, vraiment cool. Je sais pas si tu l'as vu.
Non, ça, je connais pas.
Il faut qu'on fasse une soirée Night of the Creeps et The Monster Squad, et ce sera vraiment une soirée extraordinaire.
Eh bien, avec plaisir.
Voilà, merci mille fois à Extra Lucid Film, qui est vraiment un éditeur à suivre, qui sort des paquets de bons films. Merci à toi, Charles.
Merci, Thomas.
Et merci à vous qui nous écoutez en direct sur Aligre FM 93.1 et en podcast. Le mois prochain, on se retrouve pour un spécial animation. Salut, salut.
Salut.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.